Bonjour, merci de m'accueillir à la EFE, Mariette Dupont. Je suis proviseur adjoint de l'ENSAAMA, l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, qui est basée à Paris. Donc, c'est une école qui regroupe 950 étudiants. C'est une école qui dépend de l'éducation nationale, qui regroupe 950 étudiants du supérieur, c'est-à-dire des étudiants qui ont déjà un bac. Alors, l'ENSAAMA fait partie d'un très étendu réseau d'écoles qui enseignent ce qu'on appelle les arts appliqués ou plus communément le design, mais également les métiers d'art, sur tout le territoire français. À Paris, il y a 4 grandes écoles. Il y a l'école Boulle, qui est renommée pour tous les métiers du meuble. Il y a l'école Estienne, qui est l'école du livre, avec tous les métiers qui sont attenants. Il y a l'école Dupéré, plus spécialisée dans la mode. Et il y a l'ENSAAMA, École nationale supérieure des arts appliqués, qui, elle, regroupe toutes les spécialités. C'est la seule école en France qui va regrouper les 4 grands domaines du design, qui sont le design de produits, qui traite de l'objet, de la petite cuillère jusqu'à l'automobile, le design d'espace, qui va aménager l'intérieur des espaces que les architectes auront conçus. Donc, on peut penser à tous les espaces publics, les espaces commerciaux, les espaces d'habitation. Un troisième domaine, qui est le design textile, et chez nous, il est spécialisé dans les matériaux textiles. Et un quatrième domaine, qui est le design graphique, qui se divise en 2 parties. Le design graphique sur les supports imprimés, toute la presse, tous les supports d'information, et le design graphique numérique, tous les supports du web. Ce sont les 4 grands domaines. Cette école donc regroupe ces 4 grands domaines qui sont en fait morcelés dans les autres écoles en France ou à Paris. Et c'est ce qui va lui donner sa force, parce qu'il va y avoir une interdisciplinarité, une mobilité des étudiants dans les projets qui vont suivre, même s'ils sont dans une filière. Il va y avoir des travaux communs, il va y avoir des échanges qui vont être particulièrement intenses. Cette école, en plus des métiers du design, les arts appliqués, ça parle des arts appliqués à l'industrie, mais je voulais les mettre en parallèle avec ce qu'on appelle les métiers d'art. Donc le design, les arts appliqués à l'industrie sont un peu différents des métiers d'art qui sont des métiers plus artisanaux. C'est-à-dire la différence, c'est que le designer, il va concevoir un produit qui va être fabriqué par une industrie, alors qu'un étudiant de métier d'art, lui, va ensuite être une personne qui va concevoir et réaliser son produit. Bien sûr, c'est un peu schématique parce que toutes ces frontières-là vont être beaucoup plus, beaucoup moins hermétiques dans la vie professionnelle. Dans toutes les écoles d'arts appliqués dont je parlais en France et à Paris, elles ont quelques domaines de métier d'art. Chez nous, nous en avons 5. Avec des très petits effectifs, on a les métiers d'art du vitrail, 6 étudiants pour la restauration, mais également la création. On a les métiers d'art de la laque, qui vont travailler de façon artisanale, mais qui quelquefois sont demandés dans les industries du meuble. On a les métiers d'art de la fresque et mosaïque, 12 étudiants qui vont traiter des surfaces de murs pour des installations particulières. On va avoir le métal, qui sont des gens qui vont pouvoir se spécialiser ensuite dans la bijouterie, mais également dans des pièces métalliques très spécifiques pour le mobilier, par exemple. Et puis un dernier domaine qui est les matériaux de synthèse, qui sont peut-être pas très explicites dans leur titre, mais qui sont des gens qui vont travailler pour des matériaux plastiques de toutes sortes, pour le spectacle vivant, qui peuvent travailler chez Disney, par exemple, qui peuvent travailler au théâtre et qui vont construire des objets gigantesques ou très petits pour le milieu du spectacle. Voilà, ça, ce sont nos 5 domaines. Les autres écoles se répartissent des spécialités qui sont liées à leur dominante. En textile, on va avoir des brodeurs. En mobilier, à boule, on va avoir des pièces métalliques, ciseleurs, graveurs ou des sculpteurs pour les pièces de bois du meuble, etc., etc. Donc la force de l'ENSAAMA, c'est la diversité et la complémentarité de ses formations. Ça, c'est un de ses premiers atouts. Donc les métiers dont j'ai parlé tout à l'heure, les formations donc, qui vont déboucher sur des métiers, parce que ce sont des formations professionnalisantes, on va recruter des personnes qui vont avoir des atouts complémentaires. Pour être plus explicite, je vais vous décrire une semaine type de formation de ces étudiants. Et ensuite, vous verrez comment ça va s'appliquer dans le monde professionnel. La semaine type de 5 jours, entre 30 et 33 heures de cours par semaine, donc c'est très très intense comme formation, elle se découpe en deux parties. La première partie de 2 jours, ce sont 2 jours d'atelier, donc 2 jours sur 5 jours, dans lesquels l'étudiant va exercer toute sa passion dans le domaine qu'il a choisi, pour lequel il a été recruté. Donc 2 jours d'atelier très dense, 2 fois 8 heures, 16 heures. Sur les 3 jours restants, on va découper en 2 parties. 1 jour et demi vont être consacrés au domaine artistique, c'est-à-dire en fait c'est l'alphabet de designer, c'est-à-dire les outils qu'il va devoir maîtriser absolument pour pouvoir exprimer ses idées. Donc ce sont des outils graphiques, il va travailler le croquis, il va travailler le dessin, il va travailler la couleur, il va travailler la peinture, il va travailler le modelage, parce qu'il faut apprendre à voir en 3 dimensions, même si on fait du design graphique, il faut exercer son esprit à voir en 3 dimensions en travaillant la terre. Il va faire de la composition, qu'on appelle, c'est-à-dire apprendre à composer du texte, de l'image, des objets qui sont fondateurs, en fait, hein, dans les métiers du design. Donc, c'est les modes d'expression qui vont devenir, comme pour un sportif, à l'entraînement quotidien, comme pour un musicien, les gammes qu'il va faire tous les jours, pour un designer ou un artisan de métier d'art, la pratique du dessin doit être le lien direct entre son esprit et le client auquel il va parler, pour lequel il doit être capable d'exprimer graphiquement, immédiatement, l'idée qu'il a dans la tête. Donc voilà, 1 jour et demi qui sont consacrés à ces pratiques de base qui le poursuivront toute sa vie de toute façon. Et puis, 1 jour et demi restant pour les enseignements généraux. On est en France, on donne aussi une formation qui va être utile dans l'exercice de la profession. On va avoir de la gestion, des mathématiques, des sciences physiques, toujours appliquées évidemment à la spécialité. On va avoir du français, on va avoir de la philosophie. Et puis, bien sûr, de l'histoire de l'art qu'on pourrait mettre à la fois dans le domaine artistique, à la fois dans le domaine général et à la fois dans le domaine professionnel. Que cette dernière matière qui s'appelle ATC, qui est art, technique et civilisation, qui est en fait emblématique de l'articulation entre l'histoire des arts, l'histoire des techniques et l'histoire des civilisations, c'est-à-dire de la société. Et en fait, ça ancre très très bien l'enseignement des arts appliqués, la pratique du design, qui sont au croisement de ces connaissances-là. Et j'en viens de ce fait au profil des étudiants, parce que le recrutement des étudiants va être lié aux besoins, évidemment, aux attentes des entreprises ou des agences dans lesquelles ils vont être embauchés par la suite. C'est-à-dire que c'est des étudiants qui vont devoir être à la fois curieux de leur société, parce que quand on conçoit un objet, que ce soit une chaise évidemment, une paire de lunettes, les vêtements que nous portons, en fin de compte, on peut se regarder dans la minute, on voit que tous les objets qui vont nous entourer, que nous portons au quotidien, ont été normalement, s'ils sont particulièrement confortables, pensés par un designer. Mais ce designer, il s'intéresse à la société, aux besoins qui vont venir, en général il est précurseur, mais il va devoir travailler en équipe. Alors ça, c'est une deuxième qualité qu'on pourrait remarquer, c'est-à-dire donc la curiosité sociale du monde qui l'entoure. Le deuxième point, ça serait la capacité à travailler en équipe, parce qu'évidemment, un designer ne travaille pas tout seul pour inventer la chaise qu'on utilisera dans 20 ans devant notre bureau. Il va falloir qu'il travaille avec des sociologues, il va falloir qu'il travaille avec des ingénieurs sur les matériaux. Il va falloir qu'il travaille avec des commerciaux, parce qu'il y a un moment où il va falloir parler argent. Et donc, il travaillera au sein d'équipes élargies et pluridisciplinaires. Donc là, ça, c'est un deuxième aspect. C'est sa capacité à entendre aussi les contraintes des uns et des autres, parce que la production d'un objet, c'est énormément de contraintes, et de pouvoir les intégrer à son processus de création. Une troisième compétence qu'on pourrait lister, c'est la capacité de créative. C'est-à-dire qu'il faut avoir un imaginaire quand même, enfin, au moins un peu, c'est-à-dire être capable de rêver, être capable de se projeter dans l'avenir, être capable aussi, toutes ces capacités imaginatives, c'est lié au jeu, c'est lié au plaisir, c'est lié à l'ouverture. Hein. C'est que ce sont des gens qui ont souvent des pratiques artistiques, pas forcément dans ce domaine-là qui vont être recrutés, mais c'est peut-être des gens qui ont fait de la danse, qui ont fait de la musique, qui ont fait du tricot. On n'a aucun avis sur les pratiques artistiques ou artisanales que peuvent avoir les étudiants. Et je dis exprès, je parle exprès du tricot comme je pourrais parler de la broderie ou de la cuisine, parce qu'il y a un aspect manuel. Alors ça, c'est encore un autre aspect qui peut orienter le recrutement des étudiants. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui pensent des objets, mais qui aiment en faire des maquettes, qui mettent des mains dans le cambouis quand même, qui aiment aller sur une machine-outil, qui aiment faire de la teinture, qui aiment coudre, qui aiment, vous voyez, dans les différents domaines d'application, il y a l'aspect manuel qui est très important. Donc entre le cerveau et la main, le designer va se positionner. Il faut aussi souvent de bonnes capacités d'organisation. Ça peut être un point fort dans le recrutement, parce que travailler dans des équipes, mener à bien un projet, si on est sur des objets très précurseurs, un téléphone, vous imaginez l'ampleur d'une équipe qui va travailler autour d'un futur téléphone, ça, tout le monde peut se le représenter. Il y a une part d'organisation et de méthode qui éloigne l'idée qu'on peut avoir d'un designer qui serait un doux créatif. Ça, c'est, il peut avoir une partie de sa pratique qui lui permette de s'évader à travers sa création, mais en tout cas, il va être dans des contraintes aussi de réalisation pour lesquelles, à un moment donné, il va devoir revenir sur Terre et travailler de façon très pragmatique également. Donc, vous voyez là qu'on a des profils de personnes qui vont avoir des compétences qui vont être très complémentaires. Et bien entendu, dans les gens qui vont être recrutés, dans leur cursus d'études et ensuite dans leur embauche, ils auront des points forts. Certains vont être embauchés parce qu'ils sont très créatifs, pas très organisés, pas très techniciens. D'autres vont être des gens férus de technologie, de matériaux nouveaux, moyennement créatifs et plutôt organisés, etc., etc. Donc on voit que les combinatoires des points forts, des points faibles, des compétences vont pouvoir s'articuler. Et j'en viens au recrutement, c'est-à-dire que tout comme l'entreprise va chercher un designer qui va être unique d'une certaine façon, ça va être au cours de ses études l'occasion d'affirmer, de développer sa personnalité, parce que c'est ça qu'on va venir chercher quand on va l'embaucher, hein, c'est sa spécificité. Quand on va le recruter, on va repérer tous ces aspects-là. Et peut-être qu'on va en choisir certains pour certaines dominantes et pour d'autres, et on va constituer des classes dans lesquelles les équipes classes, on pourrait dire, hein, qui vont travailler ensemble à travers des projets, vont pouvoir mettre en commun des dominantes et des points forts et des points faibles qui vont pouvoir se compléter. Voilà. Donc, je reviens encore en amont au recrutement, mais j'ai essayé de vous présenter l'ensemble de la démarche, c'est-à-dire à la fois ce qu'on va attendre dans l'entreprise, à la fois comment on va le mettre, on va le développer au cours de la formation et très en amont comment on va essayer de le repérer dans le recrutement. Ce sont des formations extrêmement sélectives. De toute façon, il y aura sélection. La sélection, elle se passe en général dans toutes les écoles de la façon suivante. Il y a une présélection sur le dossier. À partir de cette présélection, il y a une phase d'entretien où l'étudiant va venir parler de ses motivations, montrer un book de projet. Alors, souvent, on me dit, mais comment peut-on recruter ces étudiants avec simplement des bulletins et une lettre de motivation ? Alors, le simplement ou seulement me fait toujours un peu réagir parce que, quand même, il y a 5 bulletins, c'est-à-dire les 3 bulletins de première et les 2 de terminale. Sur chacun des bulletins, en général, il y a une dizaine de rubriques. Dans ces dizaines de rubriques, il y a des appréciations de professeurs et des notes, ce qui fait quand même plus ou moins 50 appréciations, plus celles des chefs d'établissement. Et en fait, au travers des 50 appréciations, on est capable quand même de repérer un profil d'étudiant. Voilà. Donc ce n'est pas rien, 5 bulletins ce n'est pas rien. La lettre de motivation, elle est extrêmement importante. Alors, la lettre de motivation, elle est importante, pourquoi ? On va me dire aussi très souvent, c'est très facile, les parents vont faire la lettre de motivation. Alors, d'abord c'est pas vrai, pas toujours. Et ensuite, ça se voit tout de suite. L'intérêt de cette lettre de motivation, c'est que l'étudiant exprime sa motivation, mais surtout qu'il l'incarne. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de dire « je suis passionné par la musique » et à travers la musique, les pochettes de disques et du coup, je voudrais devenir graphiste, par exemple. Encore faut-il argumenter. Et c'est là qu'on attend le candidat. Et il faut que ça s'incarne. C'est-à-dire, depuis 10 ans, je collectionne des pochettes de disques, par exemple, et je m'amuse à en créer. Ou bien, je m'inscris dans des stages l'été. Et on liste les types de stages. Et j'ai fait de la poterie. Ensuite, le stage suivant, j'ai fait de la peinture. Je me suis inscrite sur des newsletters de musées parce que comme j'habite à l'étranger, par exemple, puisqu'on parle des AEFE, évidemment que je ne peux pas être au Louvre, mais il est tout à fait possible de visiter des musées en ligne. Et donc, régulièrement, je suis l'actualité des musées à travers le monde. Le Louvre d'Abu Dhabi, Beaubourg à Metz, etc., par exemple. Ou bien je suis abonnée à des revues spécialisées dans le domaine de la céramique parce que je suis passionnée par ce domaine, etc. Et je connais, je suis particulièrement les productions de tel pays, etc. Donc, ce qui est très important dans cette lettre, donc, c'est de montrer comment on incarne cette passion. La deuxième chose, le deuxième message que je voudrais faire passer aux étudiants de l'AEFE, puisque c'est à eux qu'on s'adresse aujourd'hui, c'est qu'ils ont une richesse. C'est comme ça qu'à mon avis, il faut qu'ils le vivent. C'est-à-dire que vivant à l'étranger, ils ont accès à une culture et à des cultures différentes et que dans la lettre, ça peut figurer. C'est même d'ailleurs quelque chose qui serait très très riche. Aujourd'hui qu'on travaille avec le réseau de l'AEFE, justement, on s'intéresse à recruter des étudiants qui, dans les classes, vont avoir fait l'expérience d'une ouverture internationale, qui auront profité de leur vie à l'étranger pour approfondir des cultures d'un autre type. Et on revient à la notion de designer qui est curieux de la société, mais pas seulement de la société qui l'entoure directement, celle qui pourrait être plus loin, ou bien justement dans une société différente par rapport à l'école qu'il va intégrer et qui va en faire une richesse. Donc il faut bien retourner cette expatriation des étudiants d'AEFE comme une richesse et comme un plus qu'ils vont pouvoir faire valoir lors de leur recrutement. Depuis que nous travaillons en étroite collaboration avec l'AEFE, le nombre de candidats augmente. L'année dernière, nous avons eu 80 candidats du réseau de l'AEFE, 80 aussi candidats étrangers qui étaient hors du réseau. Donc on a une école qui est connue à l'international et je vais en parler ensuite. Sur les trois dernières années, on a 6 étudiants actuellement qui sont dans l'école. Voilà. Mais on sait très bien que ces domaines étaient assez mal connus jusqu'à maintenant, mais ça va changer. Vous allez nous connaître beaucoup mieux. Et je pense que c'était des écoles qui ont des points extrêmement forts. Sur la dimension internationale, l'école, de toute façon, le fait de recruter des étudiants qui ont cette expérience déjà internationale est un des éléments de la politique de développement international de l'établissement. On en a d'autres depuis longtemps. On a des étudiants qui partent faire un semestre à l'étranger. On a des accords avec des écoles, 35 établissements dans 20 pays, ce qui est donc déjà un réseau relativement étendu. D'autres options font que les étudiants partent également faire leur stage. Hein, sur leur cursus d'études, ils ont un stage obligatoire. Et la plupart, beaucoup d'étudiants vont faire des stages à l'étranger. C'est encore une autre dimension de la mobilité internationale. On a d'autres aspects également. Je parlais tout à l'heure de formations qui sont très professionnalisantes. Les professeurs qui enseignent sont des professeurs qui sont diplômés de l'éducation nationale, mais qui ont tous une activité aussi professionnelle dans le domaine qu'ils enseignent, et donc des relations extrêmement étroites avec les entreprises. Et des projets de partenariat avec les entreprises sont développés chaque année. On peut dire que ce qu'on appelle des workshops, par exemple, c'est-à-dire des exercices, des semaines banalisées à partir de demandes d'entreprises qui mettent les étudiants en situation de travailler une semaine non-stop comme dans une agence pour répondre à des éléments de recherche de l'entreprise qui veut développer des produits, etc. Donc les liens avec les entreprises sont très très forts et éventuellement avec des entreprises étrangères. On fait également des types de workshops dont je parle, c'est-à-dire apprendre aux étudiants à travailler ensemble, par exemple entre deux formations qui vont former des équipes de design d'espace et design produit pour répondre à un pseudo-client, bien entendu. Mais on joue aussi à des workshops avec des écoles étrangères, c'est-à-dire des étudiants, par exemple l'UDECA de Berlin ou la St. Martin School qui vient régulièrement faire des workshops avec leurs étudiants. Et on va créer des projets d'études qui vont mettre en équipe des étudiants français, anglais et allemands, par exemple, autour d'une demande spécifique en session intensive. On peut appeler les workshops des sessions intensives de recherche pour apprendre à travailler ensemble. Voilà, donc vous voyez qu'on va mettre l'étudiant en situation en situation multiple d'expériences pré-professionnalisantes, de façon à ce que, au moment de l'embauche, ce soit des cartes de visite extrêmement puissantes, ce qui est le cas parce que les taux d'embauche sont assez forts, en particulier en sortant de cette grande école qu'est l'ENSAMA.